Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans, l'alternative.
C'est d'actu avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
Bonjour et bienvenue dans C'est d'actu. Au programme aujourd'hui, on écoutera la conférence de presse du vendredi 11 octobre de Stéphane Le Foll et Thierry Cozzi sur la politique budgétaire du gouvernement et ses implications sur la ville et la métropole du Mans. On écoutera ensuite la chronique de Marion Salle, assistante de communication au cinéaste, qui nous fera une rétrospective des 20 ans du cinéma d'art et d'essai du Mans. Puis on parlera encore cinéma avec les programmateurs qui nous parleront de la programmation du Cinépoche et plus particulièrement de la projection de Carnet de voyage de Walter Salle. Ce sera le 18 octobre. Nous entrerons enfin dans les coulisses de la création d'une chorégraphie de danse avec Sylvain Siéjou et son spectacle « Mieux vaut partir d'un cliché que d'y arriver » qui se jouera à Ève, la scène universitaire, le mercredi 16 octobre. On démarre sans plus attendre cette émission avec la conférence de presse du vendredi 11 octobre de Stéphane Le Foll et Thierry Cozzi. Nous écoutons à présent la conférence de presse du maire du Mans Stéphane Le Foll le vendredi 11 octobre qui commentait la politique budgétaire gouvernementale et en relevait les implications sur la ville et la métropole.
Bon, d'abord, merci d'avoir répondu à cette invitation avec Thierry Cozzi, qui est au Sénat vice-président de la Commission des Finances, donc il va donner aussi sa lecture de la situation. On n'est pas dans le ruissellement, on est avec les chutes du Niagara dans le gouffre de la dette. On est dans une situation qui est extrêmement préoccupante pour la France et de manière plus générale pour l'ensemble des acteurs et des collectivités locales. J'aurais souligné d'abord que la contradiction fondamentale qu'il y a eu à supprimer la taxe d'habitation, faire baisser l'autonomie fiscale des collectivités, pour ensuite indiquer que les collectivités allaient devoir participer à l'effort, désignées comme responsables elles aussi de l'endettement de la France. Je rappelle que l'endettement global lié aux collectivités, ça représente 9% de l'endettement de la France aujourd'hui, et c'est à peu près stable depuis une vingtaine d'années. Donc il n'y a pas eu d'inflation de la dette du côté des collectivités, elle est restée en pourcentage stable. Cette contradiction entre autonomie fiscale retirée et maintenant contribution de l'État va conduire une collectivité comme la nôtre, mais on n'est pas tout seul, je regardais les villes de taille équivalente, Nancy, Rouen, Metz, Reims, on est tous autour de 5-6 millions pour la ville et entre 5 et 8 millions pour les intercommunalités. Mais pour ce qui nous concerne, c'est d'abord une collectivité qui est en pleine phase d'investissement. Même si je voulais prendre une image, c'est comme quand vous êtes sur un sprint et que vous avez des déchirure musculaire. Ça s'arrête. Heureusement que la ville comme la métropole sont gérées et qu'on va donc poursuivre les investissements qui sont engagés. Par contre, il est clair que l'impact sera sur les investissements qui étaient envisagés et on va devoir repousser un certain nombre d'investissements avant d'y voir un peu plus clair sur la situation. Je voudrais rappeler qu'on est souvent accusé d'avoir des coûts de fonctionnement qui ont augmenté. Si je prends deux décisions qui ont été prises, et qui étaient légitimes d'ailleurs, l'augmentation du point d'indice et l'augmentation du SMIC, pour la ville comme pour la métropole, c'était à peu près 8,5 millions d'euros de masse salariale supplémentaire. Décisions qui ont été prises par l'État, l'augmentation du SMIC comme le point d'indice. Si je regarde aussi dans le domaine de la santé, domaine sur lequel c'est une compétence optionnelle pour les collectivités, nous l'avons prise, puisque vous le savez, nous sommes dans une situation, dans le domaine en particulier de la présence médicale, qui a nécessité qu'on investisse. Cet investissement aujourd'hui, si je prends l'exemple du centre de santé, c'est en fonctionnement presque 1 million d'euros, entre les ETP et le fonctionnement général de ce centre de santé qui est très important, puisque aujourd'hui on doit atteindre presque 7000 patients. La police municipale, pour ce qui les concerne, on arrive maintenant à 35 policiers municipaux. L'augmentation liée à l'augmentation du nombre de policiers, c'est 2 millions d'euros par an. mais ça participe à la sécurité, qui est une demande d'ailleurs réitérée au niveau du gouvernement. Je fais une incise extrêmement précise. La promesse avait été faite l'an dernier de 10 policiers supplémentaires pour les transports par l'État. J'espère que dans cette période, ce qui avait été promis par le préfet et par le gouvernement précédent sera tenu. Le Mans demande à ce que ce qui avait été prévu, ce qui avait été annoncé, soit concrétisé à la fin de cette année, puisqu'on avait donné notre accord pour passer les Jeux Olympiques, et on a même prévu l'accueil de cette brigade supplémentaire de policiers avec l'ancien lieu de la police nationale à Pont-Lieu. Donc tout est prêt. Nous, maintenant, l'État doit tenir son engagement. Les mesures proposées, c'est là que ça devient impactant, dans une ville qui, je l'ai dit, est heureusement bien gérée. Je rappelle que l'endettement de la ville du Mans, par exemple, on peut rembourser notre endettement aujourd'hui en 5 années d'épargne brute que nous avions. Et pour la métropole, tout budget confondu, je mets de côté le budget principal, puisqu'on n'a pas de niveau de remboursement à faire, parce qu'on était pratiquement arrivé à zéro. Mais sur tous les autres budgets, le budget d'assainissement, sur aussi le budget sur les ordures ménagères et surtout le budget des transports, on est en gros en capacité aujourd'hui, à l'heure où je parle, de rembourser la totalité des dettes en 2 années. Donc je rappelle qu'en plus, nous n'avons pas augmenté les impôts au niveau de la métropole depuis, je crois, 2016. Et que sur la ville, nous avons fait 1 point d'augmentation des taux, en 2020, quand je suis arrivé et qu'on a été élu, et que depuis, nous n'avons pas touché au taux d'imposition ni de la ville ni de la métropole. Et cet engagement sera tenu jusqu'à la fin du mandat. Donc on va devoir faire des efforts de gestion. Qu'est-ce que ça a comme impact? C'est énorme. Si je prends la contribution au redressement des finances publiques, rien que ça, qui est le sujet qui va être abordé dans le cadre des débats qui vont commencer maintenant sur la loi de finances, c'est un prélèvement de 7,8 millions d'euros sur la ville et la métropole, 3,8 millions pour la ville, 4 millions pour la métropole. Et je le disais, je regardais à peu près, c'est à peu près partout, nous sommes bien gérés, donc on peut être ponctionné. C'est exactement ce qui est en train de se passer pour 7,8 millions d'euros. Mais si je continue sur ce que j'entends, et on aura les confirmations dans les débats qui vont venir, la diminution de 2 points du fonds de compensation de la TVA, c'est-à-dire qu'est-ce qui vient compenser ce que nous payons et au niveau de la TVA. Ça serait pour la ville 500 000 euros de moins et pour la métropole 1 million de moins. Si, ce qui est aussi dans les tuyaux, c'est-à-dire l'augmentation de la contribution pour la CNRACL, c'est-à-dire la retraite des fonctionnaires, s'applique. Les premières estimations nous amènent à plus 400 000 euros pour la ville et plus 1 100 000 pour la métropole, ce qui fait pratiquement 1,5 million de plus. Si le montant de la TVA est figé en 2025 et l'État conserverait, lui, la dynamique de la TVA pour lui, je rappelle qu'une partie de la compensation pour la métropole de la suppression de la taxe d'habitation, c'est une part de la TVA. C'est sympathique. D'un côté, on nous supprime un impôt, on le remplace par une part de la TVA, puis après on dit, ben non, on ne va plus vous verser la dynamique de la TVA, c'est pour l'État, c'est plus pour vous. Ça représente cet élément-là sur la TVA, près de 2 millions d'euros. L'absence de l'indexation de la DGF sur l'inflation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de revalorisation de la DGF en fonction de l'inflation, ça représente à peu près 1 million d'euros. Et si j'ajoute la baisse du fonds vert, qui est le fonds qui venait alimenter les investissements dans le domaine de l'environnement, on est à, pour ce qui nous concerne, près de 2,4 millions d'euros en moins. Si je fais le total de tout, c'est 13,8 millions d'euros de ponction sur la métropole et la ville du Mans. 5,2 millions pour la ville et 8,6 millions pour la métropole. Voilà la réalité des chiffres. Et voilà la réalité des choses. À partir de là, moi, ce que je veux dire, c'est que, un, on maintiendra les investissements qui sont engagés, bien entendu, et qui visent justement à préparer la ville durable de demain et la métropole durable de demain. C'est les chronolignes, c'est les allongements des rames de tramway, c'est le palais des congrès qui sont engagés et qui seront maintenus. Ça, on maintiendra. Deuxième point qui va être obligatoire si, en fonction du débat parlementaire et s'il y a éventuellement un 49-3, donc la détermination du gouvernement a l'air d'être affirmée, eh bien on va être obligé d'avoir une politique extrêmement restrictive sur les dépenses de fonctionnement. Je termine sur deux points. Le premier, c'est que ce qui s'est passé, et c'est pas moi qui le dis, c'est le président de la, le vice-président de la Cour des comptes, hein, ce dérapage est spectaculaire et totalement, historiquement, exceptionnel. Puisque je rappelle que la loi de finances pour 2024 fixait un objectif de déficit de 4,4% du PIB. On est à plus de 6.
C'est 3-3.
Je ne sais même pas, tu diras, je croyais que c'était 4, mais enfin 4, et on passe à 6. Puis 2 points de PIB de dérapage entre la loi de finances et la réalité de ce qui est en train de se présenter aujourd'hui. Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé qui est inconcevable. Où il y a eu un laisser-aller, laisser-faire, laisser-filer, et avec les conséquences qu'on connaît aujourd'hui. Ou alors il y a des sous-estimations de recettes, et en particulier sur la TVA, mais là il va falloir donner des explications. Donc le Parlement a plusieurs dispositions à sa main pour pouvoir engager une explication, donner une explication sur ce qui s'est passé. Mais Thierry avait déjà participé à une commission d'enquête l'an dernier. Troisième point, c'est qu'on ne peut plus continuer comme ça. Et je l'ai déjà dit, je pense qu'entre l'État et les collectivités, il faut revoir un pacte de confiance. Je rappelle les investissements du Mans. Aujourd'hui, on est autour, dans les 4 années qui vont venir, d'un milliard d'euros. C'était ce qui était prévu. Le Mans, la ville, plus la métropole. C'est des investissements pour préparer l'avenir, mais c'est aussi des investissements qui permettent l'activité de notre territoire. Toutes les entreprises qui ont répondu au marché aujourd'hui sont des entreprises qui ont du travail et qui font de l'emploi. Il doit y avoir une étape nouvelle de la décentralisation qui vise à avoir une relation nouvelle de confiance entre l'État et les collectivités. On ne peut plus continuer comme ça. Là, j'insiste pour exiger et demander qu'il y ait une vraie conférence avec les collectivités locales, régions, départements et intercommunalités, et qui se fassent de manière formelle. Ce n'est pas simplement le congrès des maires, hein, avec un discours des uns et des autres. Non, il y a un vrai travail à revoir et à refaire de manière complète.
Thierry Cozzi, sénateur et vice-président de la Commission des Finances, a ensuite pris la parole pour donner lui aussi son regard.
Et c'est vrai que pour rebondir sur les propos de Stéphane Le Foll, je crois quand même que la situation aujourd'hui dans laquelle on est n'est pas une situation exogène. Il y a des chocs qui pourraient parvenir de l'extérieur. C'est surtout le choix d'une politique que nous, de choix politiques qui ont été faits depuis 7 ans. Je crois que la situation économique dans laquelle aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. Mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'elle nous conduit dans l'impasse. Depuis 7 ans, le président Macron et les différents gouvernements qui sont succédés ont fait un pari. C'est de supprimer 60 milliards de recettes fiscales afin qu'elles permettent aux entreprises de dégager de la croissance, qui elle-même aurait généré des recettes fiscales nouvelles, qui permettraient de combler les déficits. Sauf que dans la situation dans laquelle on est, avec une croissance qui est à tonne, le pari est perdu, me semble-t-il, pour deux raisons. Premier, c'est que les emplois. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend le gouvernement dire que le taux de chômage a fortement diminué, s'est stabilisé autour de 7%. Et quand on analyse les emplois qui ont été créés sont des emplois à faible revenu, donc plutôt précaires, et qui n'ont pas fait entrer de nouvelles recettes fiscales. Par ailleurs, les recettes fiscales, les fameux 60 milliards par an qui ont été détruites, n'ont pas compensé les politiques qui ont été mises en place, qui nécessitaient, elles, des financements. Donc, vous voyez, c'est le cercle vicieux qui s'est déroulé pendant ces 7 années, et aujourd'hui on en subit pleinement les conséquences. Je vais quand même donner quelques résultats qui sont, je crois, à la hauteur du ratage de la politique portée par Emmanuel Macron depuis 7 ans. En France, nous avons le pire déficit depuis la Seconde Guerre mondiale, hors crise, c'est-à-dire que 6%, on parle de 6,2%, parle même, le gouvernement fait état de 7% si on laisse filer à la fin de l'année. L'an prochain, la France aura le déficit le pire de la zone euro. Ça ne s'est jamais produit. La charge de la dette, c'est-à-dire qu'à un moment, il va aussi falloir payer, va devenir le premier poste de dépenses budgétaires dans le budget de l'État. On parle pour 2027 autour de 80 milliards d'euros. C'est-à-dire que c'est supérieur au budget de l'éducation. Stéphane Le Foll a évoqué tout à l'heure les emprunts, les taux d'emprunt liés à la charge de la dette. C'est que pour la première fois, nous empruntons sur les marchés à un taux qui est supérieur à celui de l'Espagne. C'est pour vous donner quand même un ordre d'idée. Et dans le même temps, la pauvreté, je crois qu'elle n'a pas cessé de s'accroître. Aujourd'hui, il y a notamment, je crois que c'est Oxfam qui fait état de plus de 10 millions de pauvres en France. Et donc on voit quand même cette dichotomie. Et je crois que c'est dans ce cadre aujourd'hui qu'il nous faut aussi apprécier la pertinence des coupes budgétaires qui sont annoncées pour nos collectivités, pour les collectivités. Je trouvais important aussi de pouvoir avoir ce regard national à côté de Stéphane Le Foll en tant que maire, mais aussi président de la métropole, qui va être directement impacté par les décisions telles qu'elles sont prises. En préambule, je voulais quand même rappeler qu'aujourd'hui, les collectivités, elles sont soumises à ce qu'on appelle la règle d'or. C'est-à-dire qu'on a interdiction de voter les budgets en déficit. Voilà. Les budgets sont équilibrés. La dette des collectivités, Stéphane l'a évoqué, elle est stable depuis 30 ans. C'est pas 20 ans, c'est 30 ans. Ça fait 30 ans que dans le PIB, on est autour de 9%, elle n'a pas bougé. Et elle a une particularité, contrairement à l'État qui finance du fonctionnement, la dette des collectivités ne finance que de l'investissement. Donc, des charges qui sont au service de l'économie. Malgré le millefeuille administratif, et c'est vrai qu'on a tendance toujours à taper sur cet empilement de strates en France, les dépenses des collectivités qui caractérisent la France représentent moins de 12% du PIB, contre une moyenne de 18% en Europe. C'est-à-dire que globalement, les dépenses portées par les collectivités sont, malgré l'ensemble de ces strates, est plutôt faible. Et en fait, quand même, aujourd'hui, pourquoi on arrive à cette situation? Je crois que ce n'est pas nouveau. Moi, je voudrais quand même rappeler que ça fait plusieurs mois que l'État cherche un bouc émissaire. Et il l'a trouvé avec les collectivités. Je vous rappelle les propos honteux de Bruno Le Maire il y a quelques mois avant de partir, dans lequel il faisait état des 16 milliards de dettes de 16 milliards de dettes générées par les collectivités. Très honnêtement, quand on analyse assez finement, et l'INSEE l'a fait et publie mensuellement un certain nombre d'indices, quand vous regardez l'indice de juillet, le solde primaire brut des collectivités était à hauteur d'1,4 milliard. On extrapole sur l'année, on multiplie par deux, vous voyez, on est à peu près autour de 3 milliards. Allez, on peut pousser jusqu'à 5 milliards. Donc, en fait, la difficulté, c'est que derrière, on a surtout un État qui, aujourd'hui, n'assume pas, et je crois que c'est aussi ça qui est extrêmement fort, qui n'assume pas les choix politiques qu'il a été amené à faire. Et dans le même temps, je rappelle le rapport de la Cour des comptes qui fait état de la suppression de 100 000 fonctionnaires pour une économie de 4 milliards. Donc on sent que les collectivités sont aujourd'hui dans l'œil du cyclone et qu'il y a une volonté vraiment de vouloir aujourd'hui taper sur cette strate, avec une conjonction de faisceaux qui tentent à vouloir leur faire porter le chapeau. Donc le but affiché clairement aujourd'hui, en fait, c'est ces fameux 3 milliards, c'est les contrats de Cahors déguisés. Les fameux contrats de Cahors, c'était les collectivités s'engagent à limiter leurs dépenses à hauteur d'1,5%, sous réserve de ce que tu pourras me dire, sous peine en fait d'être pénalisé. En fait, là, on remet au goût du jour ces fameux contrats de Cahors.
En pire.
Ouais,
en pire.
Voilà. Et ça y ressemble quand même énormément.
Oui,
même si on reparle pas des contrats de Cahors. Sur les dépenses publiques, vouloir chasser sur les dépenses publiques, c'est si à un moment les dépenses publiques ne sont pas engagées, derrière, c'est une dépense privée qui sera plus haute. Donc c'est aussi derrière ce qu'on cherche, c'est aussi à transférer un moment entre le public et le privé une dépense. Vous pourriez prendre l'exemple des polices municipales. Et aujourd'hui, je crois que c'est aussi ça qui est quand même derrière le message que je veux passer aujourd'hui. Je crois qu'il faut arrêter de dire que les élus sont des mauvais gestionnaires. Je crois que voilà, on a le Code général des collectivités définit la gestion municipale comme étant en bon père de famille. Et je crois que derrière, c'est aussi ce qu'on peut constater dans les territoires. Aujourd'hui, il faut changer de logiciel. Je ne crois pas, j'ai vraiment le sentiment que c'est aujourd'hui on se trompe de cible. Et que de vouloir taper sur les collectivités comme cherche à le faire aujourd'hui le gouvernement, c'est remettre en cause aussi la qualité du vivre ensemble et le lien social qui est, me semble-t-il, de plus en plus nécessaire dans nos territoires.
C'était donc Stéphane Le Foll, maire du Mans, et Thierry Cozzi, sénateur et vice-président de la Commission des Finances, le vendredi 11 octobre, prise de son par Robin Hulin.
Radio Alpa, l'alternative.
Vous êtes toujours dans C'est d'actu et nous allons passer à présent à la chronique de Marion Salle. Bonjour.
Bonjour Charlie.
Alors Marion Salle, vous êtes assistante de communication pour les cinéastes et comme toutes les semaines, vous nous tenez au courant de l'actualité du cinéma d'art et d'essai du Mans. Eh bien, on vous écoute.
Et oui, cette année, on fête les 20 ans du cinéma Les Cinéastes. C'est notre gros événement d'octobre. Et dans ce cadre-là, pour fêter notre anniversaire, on vous a préparé une rétrospective de films qui ont marqué 20 ans de cinéma. L'occasion de jeter un coup d'œil dans le rétro et de se rappeler de bons moments de cinéma. Alors, on a été assez enthousiastes sur cette rétrospective. On voulait faire 20 ans de cinéma, 20 films. Bon, au final, on se retrouve avec 35 films. 20 ans, 20 films, c'est trop peu. Pour vous expliquer un peu notre choix et comment nous avons fait la sélection, il faut se rappeler que nous avons quand même la chance de faire un métier passion. Et donc, très naturellement, nous avons en tête des films et des réalisateurs un peu fétiches. On a donc sélectionné en fonction de nos goûts. Par exemple, je pense à Léopold, un de nos projectionnistes étant un fan de Bruno Dumont. Il nous a proposé de repasser Malout, sorti en 2016. Malo, le programmateur, est un petit peu obsédé par le film First Co de Kelly Ricard, qu'il avait gardé à l'affiche pendant 16 semaines, alors que d'habitude, maximum, c'est 5 semaines. 16 semaines, c'est énorme. Donc c'était évident qu'il fallait le reprendre pour les 20 ans. Et puis, il y a eu des choix un petit peu évidents, comme Xavier Dolan avec son film Mommy, que l'on a diffusé samedi dernier. Il y aura aussi Les Frères Cohen avec Inside, Lewin Davis, que l'on diffusera le samedi 19 octobre à 19h, ou encore la réalisatrice Agnès Varda avec le dernier film qu'elle a réalisé avant sa disparition en 2019, Visage Village, donc sorti en 2017. Alors pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, voici une petite liste non exhaustive des films à retrouver cette semaine. On commence par un film français de la réalisatrice Julia Ducournau, qui a reçu la Palme d'Or pour son dernier film Titane, sorti en 2021. Ici, on revient sur son premier long métrage, Grave. C'est l'histoire de Justine, une adolescente surdouée qui, à 16 ans, intègre l'école de vétérinaire où sa sœur est également élève. Mais à peine installée, le bizutage commence pour sa première année. Elle qui est végétarienne, elle est forcée de manger de la viande crue pour la première fois de sa vie. Elle réalise qu'elle aime ça et qu'elle a besoin de plus que la viande animale. Vous pourrez redécouvrir ce film demain, mardi 16 octobre, à 18h30. Autre film de la rétrospective à revoir, le célèbre film Black Swan de Darren Aronofsky, sorti en 2011, l'histoire de rivalité dans la troupe de New York City Ballet. Nina est prête à tout pour obtenir le rôle principal du Lac des Cygnes que dirige l'ambigu Thomas. Mais elle se retrouve bientôt confrontée à la belle et sensuelle nouvelle recrue Lily.
J'ai fait un rêve fou cette nuit. Ça parle d'une jeune fille qui a été transformée en cygne et qui cherche le grand amour pour se libérer. Son prince tombe amoureux d'une autre et... elle se tue. Il a promis de me confier plus de rôles cette saison.
Mais il aurait raison, tu es la danseuse la plus sérieuse de la compagnie.
Notre nouvelle reine des cygnes, la merveilleuse... Nina Sayers.
Quand je te regarde, je ne vois que le cygne blanc. Tu es belle, craintive, fragile. Mais le cygne noir...
Je peux danser les deux.
Je veux voir de la passion. Séduis-nous. Allez, attaque. Attaque.
Regarde sa façon de bouger. Sensuelle. Elle ne truque pas.
Je suis sûre que tu vas t'en tirer à merveille.
Sans moi, Réponds-moi.
Tu m'as dit que vous aviez un peu de mal? C'est pas à toi qui devrais dire ça.
T'as besoin de te détendre, toi.
Comment tu l'as eu, ce rôle?
Profites-en bien, Nina!
Qu'est-ce qu'elle fait là?
Elle en a après moi.
Personne n'en a après toi.
Ce rôle est en train de te démolir.
Ta seule véritable ennemie, c'est toi.
Qu'est-il arrivé à ma douce? Elle est partie!
C'était donc la bande-annonce de Black Swan. On continue, Marion Salle ?
Oui, donc la bande-annonce de Black Swan à retrouver au cinéma Les Cinéastes le jeudi 17 octobre à 18h dans le cadre de la rétrospective des 20 ans du cinéma Les Cinéastes. Alors on parlait à l'instant de l'horreur avec Grave de Julia Ducournau, ici de drame thriller avec Black Swan, mais nous vous proposons également de la comédie musicale avec l'évident La La Land de Damien Chazelle. Film qui a profondément marqué les deux dernières décennies et qui a remis au goût du jour ce genre, la comédie musicale. Dans La La Land, film qui a La La Land et le destin croisé de deux rêveurs à Los Angeles. D'abord Mia, une actrice en devenir qui sert des cafés entre deux auditions. Ensuite Sébastien, passionné de jazz, qui joue du piano dans des clubs miteux et qui rêve d'ouvrir un jour son propre bar de jazz. Le destin va réunir ces deux rêveurs, mais leur coup de foudre tiendra-t-il face aux tentations, aux déceptions et au succès de la vie trépidante d'Hollywood ? On va le savoir avec la bande-annonce.
Quand vous voulez.
Deux options.
Merci.
Je suis désolée que ça ait pas marché aujourd'hui.
T'es viré.
Non, vous dites ça, mais vous le pensez pas. Ce que vous voulez dire, c'est...
T'es viré.
Je l'admets, j'ai été un peu brutal.
Brutal?
D'accord, un vrai con. Vous n'avez pas une petite pause de prévu?
Je termine dans 10 minutes.
J'aurai mon propre club. On pourra jouer tout ce qu'on voudra, quand on voudra. Tu pourrais écrire tes propres rôles. Tu n'es pas qu'une simple actrice.
Tu termines quand?
Après la tournée, on entre en studio pour faire l'album et on repart en tournée. Il va juste falloir qu'on essaie de se voir quand on se verra.
Ce style de musique te plaît? Je te rappelle seulement que tu avais un beau rêve.
Il est là, le rêve.
Ton rêve, c'est pas celui-là, Seb. Peut-être pas assez bonne.
Bien sûr que si. Quand tu auras ce rôle, il faudra que tu y mettes toutes tes tripes.
Radio Alpa, l'alternative.
Vous êtes toujours dans C'est d'actu, on termine la chronique de Marion Salle, c'était donc la bande-annonce de La La Land.
Tout à fait, donc ce film se sera retrouvé le vendredi 18 octobre à 21h. Alors malheureusement, le temps est limité pour moi, je ne pourrai pas vous parler de tous les films que nous programmons dans le cadre de notre rétrospective sur ces 20 ans de cinéma. Cette semaine, vous aurez également l'occasion de voir ou revoir Bolbert de Pedro Almodovar, Her de Spike Jonze, Marie-Antoinette de Sofia Coppola, Un prophète de Jacques Audiard et encore beaucoup d'autres. Vous pourrez retrouver toutes les informations et horaires sur notre site internet ou encore sur notre plaquette éditée qui est à retrouver en caisse du cinéma et un peu partout en centre-ville. Enfin, vous dire aussi que dans le cadre de cet anniversaire des 20 ans du cinéma Les Cinéastes, nous avons sorti de petits goodies. D'abord, une bière collector brassée par la brasserie 72 que l'on a baptisée, enfin, que vous avez baptisée puisque nous avons procédé à un vote sur les réseaux sociaux. Pour trouver le nom, baptisez donc la bande originale, une bière blonde, légère, délicieuse, moins de 5 degrés, en vente en caisse du cinéma au prix de 3 euros la canette. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien évidemment. Autre goodies, nous vendons également l'affiche collector des 20 ans du cinéma, imprimée en risographie par Gwenaëlle de Rizoéthique, basée au hangar Créalab. Alors, la risographie, c'est une technique d'impression qui fonctionne par passage et superposition de couleurs et qui utilise de l'encre végétale. Voilà, c'est à retrouver en caisse au prix de 12 euros. Merci donc à ces partenaires précieux qui nous ont permis de créer ces beaux objets. Et ma foi, nous sommes très cohérents aujourd'hui puisque les programmateurs sont à côté de moi pour parler d'un autre film programmé dans le cadre des 20 ans du cinéma.
Tout à fait. Merci beaucoup, Marion Salle. On vous retrouve la semaine prochaine.
Merci à toi. Oui.
Radio Alpa, l'alternative.
On continue donc cette émission et on passe effectivement au programmateur pour nous parler du Cinépoche. Bonjour Philippe et Sigrid.
Bonjour.
Alors, vous venez nous parler de la programmation du Cinépoche, notamment de la projection de Carnet de voyage, un film de Walter Salles qui sera projeté ce vendredi 18 octobre. Alors, pour commencer, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est le Cinépoche ?
Alors, le Cinépoche, c'est le premier cinéma, enfin, le deuxième cinéma d'art et essai du Mans, et qui a ouvert il est en 83, je crois, et qui a fermé en 2004 quand les cinéastes ont ouvert. Et les prog amateurs en deux mots parce qu'on est amateur, on essaye de faire revivre cet endroit qu'on trouve magnifique.
Alors, qui sont les prog amateurs concrètement du coup ?
C'est un groupe de bénévoles. Ça a été créé à l'initiative des cinéastes en 2020. Il y avait des flyers sur la caisse. Venez faire vivre votre cinéma. Donc, on a postulé. Et puis voilà, on s'est retrouvés plusieurs. On a fait des réunions. On a créé un petit groupe sympa. Et on organise des projections. Principalement au Cinépoche pour faire revivre ce lieu magnifique.
Alors, est-ce qu'il y a une ligne directrice de votre programmation ?
Oui, on a deux thèmes, deux types de séances. Une première séance qui correspond au film de patrimoine. Alors, c'est un mot qui peut faire peur, mais un film de patrimoine, ça peut être simplement 10 ans. Donc, on fait ces projections-là. Et puis aussi, on fait des projections en invitant un professionnel lié au cinéma. C'est lui qui choisit le film. Et après, il y a un échange. Et l'intérêt de faire ça au Cinépoche, c'est qu'on peut bénéficier du bar de l'inventaire qu'on ouvre avant et après la projection. Et ça a créé un moment quand même très sympathique.
Alors, parlez-nous donc de ce film qui sera projeté le 18 octobre, Carnet de voyage. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots ?
Alors, nous avons décidé de projeter Carnet de voyage pour l'anniversaire des cinéastes car il a été programmé lors de la première semaine d'ouverture des cinéastes en 2004.
D'accord. Donc ça a été un des premiers films à être projeté aux cinéastes.
Oui, un des quatre premiers films.
Et c'est un film qui a été récompensé ?
Oui, alors c'est un film qui a eu énormément de succès au départ. Il a été projeté au festival de Sundance dans le Montana. Ensuite, il a eu le César et le Golden Globe du meilleur film étranger. Et il a eu aussi un Oscar pour la meilleure chanson originale.
D'accord. Et alors, qui est Walter Salles, le réalisateur ? Est-ce qu'on peut en dire quelques mots ?
Alors, Walter Salles, c'est un réalisateur brésilien. Il est connu pour trois autres grands films. Il fait des documentaires, mais là, les films les plus notables sont Central do Brasil, Sur la route, d'après
le roman de Cormac McCarthy.
Voilà, de Kerouac. Et ensuite, Darkwater.
Ah oui, alors attends, Sur la route de...
Il a fait une adaptation de Sur la route de Jacques.
Ah oui, pardon, excusez, c'est ma faute, j'ai confondu Sur la route et La route, en fait.
Non, c'est Sur la route.
D'accord, voilà. Ok, ça marche. Voilà. Alors, d'où vient ce récit qui est mis en scène dans le film qui sera projeté le 18 octobre au Cinépoche ?
Le scénario, il est inspiré des livres d'Ernesto Guevara et d'Alberto Granado. Ils étaient amis, ils étaient tous les deux étudiants en médecine. Et ils ont écrit un livre qui raconte leur voyage à travers l'Amérique latine en 1952, en plein milieu de leurs études. Le film est un road movie qui est initiatique. Les deux amis partent sur une vieille moto Norton et ils vont parcourir toute l'Amérique latine.
D'accord.
Voilà.
C'est un voyage qui va durer combien de temps, ça ?
Un été.
Un été, d'accord.
C'est un été. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'au fil des rencontres effectuées, Ils vont être témoins des injustices sociales, de la misère dont qu'ils vont rencontrer, parce que tous les deux sont issus d'un milieu un petit peu bourgeois, et donc n'ont pas été confrontés à ça. Ils vont voir les ouvriers...
Bien dans le micro, excusez-moi.
Ils vont voir les ouvriers qui sont exploités, et ça va les choquer. Ernesto Guevara, c'est plutôt un romantique, et là, il va avoir une prise de conscience politique.
Et, c'est comme ça qu'il va devenir le Che Guevara, en fait.
Alors, voilà, c'est le Che, il va devenir le Che. Ça, si vous voulez connaître l'origine de cette appellation,
bah oui,
venez voir
pas.
Le film, parce que vous aurez la réponse. Et effectivement, c'est après ce périple qu'il va avoir envie de changer les choses et de changer l'Amérique latine.
Donc il n'est pas encore sensibilisé à tous ces sujets politiques au moment où il fait le voyage, en fait.
Non, c'est un petit bourgeois qui vit dans son monde, et c'est vraiment ses rencontres avec tous les paysans et les ouvriers de tous les pays qu'il traverse qui vont le sensibiliser à la misère, et il veut lutter contre tout ça.
Alors, au-delà du fait que cette projection fait écho aux 20 ans des cinéastes, est-ce qu'il y a une raison aussi pour laquelle Carnet de salle de Walter Salles entre dans la programmation des programmateurs? Est-ce que ça rentre dans votre ligne directrice d'une manière ou d'une autre?
Oui, tout à fait, parce que on reste quand même dans du film d'auteur, quoi. Et il rentre dans le profil, hein. De toute façon, il a été projeté au cinéaste, donc il n'y a pas de... Oui, tout à fait.
Y a-t-il d'autres dates importantes à retenir concernant la programmation du Cinépoche?
Alors, nous allons avoir le 8 novembre un film de Bertrand Blier qui s'appelle Merci la vie.
D'accord.
Nous avons pour projet en décembre de faire une soirée court-métrage, mais pour l'instant, c'est encore à définir parce que. C'est pas facile de
pas
faire passer des courts-métrages.
Ouais.
C'est pas facile.
Pour quelle raison?
Parce que ça coûte cher.
Ah, d'accord, c'est des questions financières.
Oui,
ça compte.
Il faut dire que, effectivement, passer un film peut être. Donc, les distributeurs peuvent nous demander donc, soit un pourcentage de la recette. S'ils demandent un pourcentage de la recette, c'est en fonction du nombre de spectateurs, ça va. Mais souvent, ils demandent un minimum garanti. Donc, on est obligé. Si on veut rentrer dans nos fonds, et puis on est obligé d'avoir un certain nombre de spectateurs et de ne pas se tromper dans notre programmation.
Ah oui, parce qu'a priori, les courts-métrages attirent moins de spectateurs que les longs-métrages.
Alors, c'est vrai que les plus anciens se rappelleront qu'avant chaque séance, on avait un petit court-métrage. Il faut enchaîner les films, les programmes, les heures sont bien fixes, il n'y a plus de place pour les courts-métrages.
Et puis les films sont de plus en plus longs aussi.
Les films sont de plus en plus longs et puis sont à peu près formatés. Donc, c'est...
Alors, puisqu'on parle de financement, justement, combien coûtera une place pour la projection de Carnet de voyage de Walter Salles?
Alors, nous avons un tarif plein à 7,50 €. Et un tarif réduit à 5 euros.
D'accord, ça marche. Où est-ce qu'on peut consulter davantage d'informations concernant le Cinépoche et les programmateurs?
Alors, nous avons deux sites, Facebook et Instagram. Donc, vous recherchez les prog amateurs et normalement, vous nous trouvez. Et ce sera avec plaisir que nous deviendrons amis.
Je vous remercie, Philippe et Sigrid, des programmateurs.
Merci.
Merci d'être venu nous parler de Carnet de voyage de Walter Salles. Ce sera le vendredi 18 octobre au Cinépoche. Donc.
Radio Alpa, l'alternative.
Et on termine cette émission avec Sylvain Siéjou qui nous parle de son spectacle « Mieux vaut partir d'un cliché que d'y arriver ». Ève, la scène universitaire présente comme chaque année une programmation entre concerts, théâtre et ateliers. Et le mercredi 16 octobre, c'est un spectacle de danse qui sera présenté. Mieux vaut partir d'un cliché que d'y arriver, de Sylvain Riégeau, qui nous accorde cet entretien. Bonjour Sylvain Riégeau.
Bonjour.
Alors pour commencer, j'ai annoncé qu'il s'agissait d'un spectacle de danse, mais est-ce qu'il s'agit seulement de danse ?
Alors non, justement, j'allais vous le dire en vous écoutant. En fait, c'est de la danse, théâtre et vidéo aussi. Okay. C'est vrai que c'est un one-man show vidéo chorégraphique,
j'allais dire. Et alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce titre ? Mieux vaut partir d'un cliché, que d'y arriver.
Eh bien, en fait, c'est une phrase de Alfred Hitchcock, le réalisateur de cinéma, qui a prononcé ça lors d'une interview pour dire que quand on veut raconter une histoire, il vaut mieux partir d'une situation très simple pour la complexifier au fur et à mesure, plutôt que de vouloir créer une intrigue trop complexe dès le départ et de perdre les spectateurs, les spectatrices avant même d'avoir commencé à raconter son histoire.
D'accord. Mais alors, qu'est-ce que c'est ?
Voilà, je fais comme moi, je raconte une histoire dans ce spectacle, donc je trouvais que c'était un bon titre de départ.
D'accord. Mais du coup, qu'est-ce que c'est un cliché en danse ? J'imagine que c'est pas la même chose qu'au cinéma.
Alors là, dans ce spectacle-là, c'est plutôt, je travaille sur le cliché de l'artiste romantique et torturé, ou en danse, le cliché du chorégraphe un peu tyrannique, ou de la chorégraphe tyrannique, un peu version Black Swan, quoi.
D'accord.
C'est vrai que les gens, ils ont un peu cette vision-là des chorégraphes, alors que moi, j'ai principalement travaillé avec des chorégraphes très bienveillants et bienveillantes. Voilà.
D'accord, donc le cliché, en fait, c'est une conception de l'artiste avec laquelle vous voulez rompre.
C'est ça, c'était ça. Je voulais un petit peu donner à voir qu'on peut aussi essayer d'avoir un petit peu de simplicité dans la création artistique.
Et alors, comment est-ce qu'on dépasse ce cliché-là ?
Eh bien, moi, c'est par le rire. C'est-à-dire que je vais pas tout vous révéler non plus, mais en gros, je crée un dialogue entre moi et mon double virtuel. Mmh. Double virtuel étant une voix dans les enceintes et aussi un personnage, un clone de mon propre corps en vidéo. Et en fait, lui, c'est le chorégraphe, le double virtuel, et moi, je suis l'interprète. Et on essaie d'écrire une danse en live devant les gens.
D'accord.
Et donc, ça m'amène à explorer un peu tout ce qui va faire une danse, c'est-à-dire déjà l'écriture des mouvements, puis l'interprétation, puis les lumières, puis les costumes, puis la musique, etc. etc. Et ça nous permet en fait de traverser un petit peu comme ça, tout en une heure, tout ce qu'on traverse lors d'une création qui peut durer 3-6 mois, et de jouer un petit peu avec toutes ces émotions.
Donc cette pièce chorégraphiée, c'est en fait une réflexion, on va dire, méta sur votre processus de création, quoi.
Exactement, tout à fait. Et ça partait vraiment du désir d'expliquer la danse. Parce que souvent, les gens disent, moi, la danse contemporaine, j'y comprends rien. Mmh. Et moi, je voulais un peu faire une danse où j'expliquerais aux gens pourquoi j'ai écrit tel mouvement, pourquoi je les interprète comme ça, pourquoi j'ai mis tel costume, pourquoi j'ai mis telle lumière. Mais sans leur expliquer de manière comme dans une conférence ou un cours magistral, mais plutôt en fait en créant une sorte d'autofiction entre moi et ce double virtuel où on dialogue tous les deux, un petit peu, vous savez, comme la voix qu'on a souvent dans la tête.
Ouais,
quand on fait quelque chose, on va se dire « Ah, mais pourquoi j'ai fait ça ? Ah, mais tiens, oui, je suis trop fort. » Oui, alors des fois, on va souvent être malveillant ou malveillante avec soi-même, mais des fois aussi, on peut être bienveillant avec soi-même. Et comme c'est une pièce qui s'adresse aux enfants, je voulais aussi leur communiquer ce message-là, quoi, qu'on peut être bienveillant avec soi-même quand on essaie de créer quelque chose.
Et puis ça permet aussi peut-être de montrer à quelles difficultés on est confronté en tant que chorégraphe. Quelles sont ces difficultés d'ailleurs ?
Exactement. Alors dans le spectacle, je montre les difficultés de l'acte créatif. L'acte créatif, je pense, en général, qui n'est pas lié que à la chorégraphie. C'est-à-dire que je pense qu'à mon avis, je ne suis pas écrivain, peintre ou musicien, mais j'imagine que ça doit être les mêmes gouffres comme ça, où on ne sait plus trop où on va, on ne sait plus ce qu'on a envie d'écrire, dessiner, chorégraphier, quoi. Donc ça, c'est ça que je montre, surtout les moments où on a les moments de doute. Voilà. Après, il y a d'autres difficultés que je ne montre pas dans le spectacle, qui seraient plutôt de l'ordre, disons, de l'économique, du politique, parce que être chorégraphe, ce n'est pas uniquement être dans un studio seul ou avec des danseurs et danseuses, c'est aussi toute la part de trouver les subventions, les coproducteurs, les dates de diffusion, etc. etc. Et ça, je ne le montre pas dans le spectacle.
Oui, voilà. Donc en fait, il y a tout un réseau d'acteurs et de relations à avoir. Mais là, pour ce spectacle, vous êtes seul en scène, même si vous êtes avec votre double. Pourquoi vous avez préféré être seul sur scène, en fait ?
Eh ben, exactement pour ce que je disais avant, c'est-à-dire que ce spectacle, j'ai pu le créer sans avoir à demander de subvention. J'ai créé ça tout seul, sur mon temps libre à l'époque où j'étais danseur pour d'autres chorégraphes et où j'avais le statut d'intermittent. Et en fait, travailler seul, c'était pour moi une manière de ne pas avoir à payer des gens, organiser des plannings, trouver des espaces trop grands pour travailler. Donc j'ai beaucoup travaillé chez moi, dans ma chambre. Et c'était une époque où j'avais pas du tout de soutien. Donc ça m'a facilité la création. J'ai pu me concentrer vraiment sur l'acte créatif et pas mettre 90% de mon énergie dans la recherche d'argent ou d'espace.
Et alors scéniquement, comment ça se présente? Parce que vous avez, quand vous avez décrit un peu le spectacle au début, vous parliez de vidéo. Quelle est la place de la vidéo dans le spectacle?
Alors la vidéo, elle est un vrai partenaire de jeu. Parce que c'est vraiment un duo entre moi et la vidéo. Et donc en fait, la scène, elle est très simple. Hein, c'est des pendrillons noirs, comme d'habitude, comme souvent dans les théâtres, un tapis de sol noir, mais il y a juste un grand cyclo blanc en fond de scène. Donc un cyclo blanc, c'est une toile de projection de cinéma en fait. Et il y a un vidéoprojecteur en avant-scène qui me permet en fait de projeter la vidéo et moi en fait de rentrer dans le film entre guillemets un peu à la manière de Roger Rabbit. Je sais pas si on n'est peut-être pas de la même génération, mais moi c'était un petit film que j'adorais quand j'étais enfant. C'est un monsieur qui rentrait dans le monde des cartoons et j'adorais ça.
Et votre clone du coup il est lié à cette projection vidéo quoi. C'est comme ça qu'il est incarné.
Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que c'est vraiment un film, c'est vraiment, j'ai vraiment travaillé comme si c'était une BD, c'est-à-dire que une BD, si on a que les dessins ou que les bulles, que le texte, on ne comprend pas l'histoire, il faut avoir les deux. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que s'il y a que le film, vous n'allez pas comprendre l'histoire, et s'il y a que moi et pas le film, vous n'allez pas comprendre l'histoire non plus. Alors, c'est vraiment un dialogue entre les deux.
Et du coup, est-ce qu'un récit se dégage? Est-ce que vous racontez une histoire, votre parcours, plus que simplement la création d'un spectacle?
Alors c'est vraiment une histoire, mais alors c'est pas vraiment mon parcours, mais c'est vraiment une histoire autour de la création d'un spectacle. C'est l'histoire de quelqu'un qui veut essayer d'écrire un spectacle, mais comme je pense que il y a eu par exemple La Nuit Américaine, qui est un film où en fait le tournage, enfin le film, c'est de montrer le tournage d'un film.
Ouais.
Voilà. Et là c'était vraiment un peu cette idée-là, quoi. J'ai rien inventé, hein. J'ai repris des. Je me suis beaucoup inspiré du cinéma.
Alors, on a mentionné l'humour. Est-ce que votre danse intègre l'humour aussi dans ses gestes? Est-ce que vous créez une danse humoristique?
Tout à fait. Et pour ça, je me suis beaucoup inspiré du cinéma muet. Buster Keaton, Charlie Chaplin ou Harold Lloyd. Vraiment avec... et aussi de la pantomime. Donc la pantomime qu'on peut voir dans les ballets de danse classique. Et sauf que je tire un peu les traits jusqu'au bout. Et du coup, ça finit par devenir clownesque. Et comme il y a un lien très fort entre le mouvement et la musique, et qu'il y a beaucoup de musique dans le spectacle, c'est ça aussi pour moi qui crée chorégraphie. C'est que finalement, à partir du moment où un geste quotidien, on va l'amplifier et le mettre en lien avec la musique, dans une lumière particulière, avec un costume, etc., bah finalement, on va créer de la danse, sans forcément avoir besoin de faire un grand battement ou trois tours en l'air, quoi.
Et puis, il y a peut-être aussi du coup une rencontre entre danse et théâtre, non?
Exactement. Exactement. Après, il y en a beaucoup, hein, des rencontres dans ce théâtre. Par exemple, Tina Bausch, qui est quelqu'un que je cite dans le spectacle, qui est celle qui a inventé la danse théâtre en Allemagne. C'est une manière de lier danse et théâtre. Moi, c'est pas du tout la même manière que j'ai de faire, mais ça s'inspire un peu de cette veine-là, quoi.
Alors, au niveau des références musicales, vous mélangez de la pop, du classique. Est-ce que vous présentez en fait un ensemble de références qui vous ont construit en tant que chorégraphe?
Oui et non. En fait, j'ai, pour cette pièce, j'ai voulu partir systématiquement de clichés.
D'accord, donc,
j'ai fait un peu des sondages autour de moi où j'ai cherché sur Internet, par exemple, quelle serait la musique la plus clichée pour... incarner la colère, quelle serait la musique la plus clichée pour incarner la douceur. Pareil pour les costumes, pour les lumières, pour tout, je me suis toujours posé cette question d'essayer de faire les choses les plus basiques, les plus on dit quelque chose, la première chose à laquelle on pense, on l'a fait, voilà. Alors que des fois dans les créations, on va aller chercher des choses un petit peu détournées, on va dire oh non, c'est trop évident, trop simple. Alors, moi j'avais envie justement, j'ai trop souvent vu des chorégraphes se prendre la tête à pas vouloir faire dans la simplicité, et moi justement je me suis dit, je vais aller toujours droit au but. Et je dis pas que la création a été facile à faire, ouais. Mais en tout cas les références, elles viennent vraiment de là, quoi. C'est des musiques très connues, que tout le monde connaît, et aussi je trouve que ça rassemble aussi les spectateurs et les spectatrices. Parce que des fois, à force de proposer des musiques trop alambiquées, trop complexes, les gens se sentent peut-être exclus.
Il y a un souci de proximité avec le public.
Oui, exactement, exactement. Je voulais vraiment inclure les spectateurs et les spectatrices dans le spectacle.
Donc ce sera mieux vaut partir d'un cliché que d'y arriver. Ce sera Ève le 16 octobre. Et donc c'est un spectacle de Sylvain Riejoux. Merci beaucoup Sylvain.
Voilà, bah merci beaucoup à vous.
Radio Alpa, l'alternative.
C'est la fin de cette actu. Merci d'avoir été à notre écoute. C'est une émission que vous pouvez retrouver en podcast sur radioalpa.com. On se retrouve le mardi 15 octobre pour parler du handicap invisible à l'université avec Sandra Auger du relais handicap à l'université, mais aussi un étudiant qui viendra témoigner à travers le recueil de poèmes qu'il a écrit à ce sujet. On présentera aussi le théâtre de l'Actalia et sa programmation pour cette année. À bientôt sur notre antenne.
Radio Alpa, l'alternative.